France Inter.
Réinformation.
Il y a beaucoup de gens qui, quelque part, sont un peu sortis d'une forme de système. Ce qui est absurde, parce que même en se renseignant avec des médias traditionnels, on peut se faire sa propre opinion, au contraire.
Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous le dis chaque après-midi au moment de vous retrouver, c'est une joie de vous accueillir dans Zoom Zoom Zen pour essayer d'éclairer un mot, une expression dans l'air du temps et, à travers cet éclairage, mieux comprendre notre époque en essayant de rester toujours le plus objectif possible. Ça, c'est ce que je vous dis tous les jours. Vous êtes si naïfs. Mais si, au lieu d'être un journaliste chérissant l'indépendance et la liberté de penser, j'étais en fait un agent double, à la solde des reptiliens qui dirigent en secret le monde. Après tout, je ne suis pas complètement français, je suis né en Suisse, base arrière comme chacun sait du mouvement reptilien maçonnique. Et Cyril Lacarrière, ce rédacteur en chef aux allures débonnaires, est-il vraiment celui qu'il prétend être? Pourquoi la commission des journalistes avait-elle sagement décidé de lui retirer sa carte de presse avant de la lui réattribuer de force sous la pression de ses amis francs-maçons? Je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que très certainement, quoique officiellement retraité du FBI, Cyril continue à faire remonter des infos sensibles à Washington. Ce qui nous sauve, c'est que vu son accent, Washington ne comprend pas ce qu'il dit.
The rise of the meritocracy.
Yeah! Mais les faits sont là.
Ça allait encore. Là.
L'équipe
allait.
De Zoom Zoom.
Non.
Tu viens de dire the rise of the
meritocracy. Oui, parce que je voulais dire meritocracy.
C'est trop compliqué, évidemment. Trois syllabes. Mais les faits sont là. L'équipe de Zoom Zoom Zen n'est peut-être pas celle que vous croyez. Et sous couvert de vous aider à mieux comprendre notre époque, nous travaillons peut-être chaque jour payés par les Russes. À vous désinformer, n'est-ce pas les amis? Là vous vous dites, qu'est-ce qui lui arrive à Noël? Il a fondu une durite? Non, chers auditeurs, je vous réinforme. C'est notre mot du jour, un concept né à l'extrême droite pour vous vendre l'idée que les grands médias et les partis de gouvernement ne vous disent pas tout, voire vous mentent éhontément. Zoom aujourd'hui sur la réinformation, un concept qui progresse dans notre société, notamment sur Internet et les réseaux, trouvant un terreau idéal dans le complotisme et l'alimentant en retour. Comment prospèrent ces stratégies de réinformation? Comment les repérer? Comment les contrecarrer? Comment surtout faire comprendre à ceux qui pensent qu'on leur ment, qu'on fait juste de notre mieux? Nous, modestes journalistes du service public, Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et on accueille Paul Conge. Bonjour Paul.
Bonjour Cyril.
Merci. Moi c'est Mathieu. Cyril c'est lui. Alors parce que vous avez beaucoup parlé avec Cyril Lacarrière qui a préparé l'émission certainement en amont avec vous. C'est notre rédacteur en chef. Mais sachez, mon cher Paul, que dans ces émissions il n'y a qu'un seul patron. Et c'est moi. Vous êtes journaliste.
C'est bien Paul. C'est
vous
bien.
Êtes journaliste chez Marianne. Vous travaillez sur l'extrême droite et les faits divers. Votre dernier livre en date s'appelle Les grands remplacés. C'était en 2020 audition Larquet. Alors Paul, vous allez nous raconter comment la réinformation séduit notamment sur les réseaux sociaux et qui. Mais d'abord, je vous présente mes deux acolytes, une journaliste et un photographe. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour à tous.
Je vais bien me faire chambrer. Ah, bonjour, ouais, bonjour tout le monde.
Bon, je vois pas pourquoi vous dites ça. Je sais ce que vous allez me dire, Paul. Que fout un photographe dans une équipe de radio?
Exactement.
C'est la question que je me pose aussi depuis que Quentin, visiblement lassé d'être réduit à son rôle de journaliste de terrain en charge des micro-trottoirs, a décidé, avec l'accord tacite mais mou de sa hiérarchie, Cyril lui ayant dit « Ok, je m'en fous, fais ce que tu veux », de devenir le photographe officiel de l'équipe. C'est désormais un bon tiers de son temps de travail qu'il consacre, après avoir torché son micro-trottoir, à nous prendre en photo dans diverses positions afin, je cite, de devenir viral sur les réseaux. Une lubie qui commence à peser sur les nerfs de certains membres de l'équipe, Cyril ayant déclaré vendredi, commence à nous casser les roustons Jean-Marie Perrier. Alors, Quentin, entre deux shootings, vous avez quand même trouvé le temps d'interroger quelques passants.
Attendez, bougez pas.
Ah oui, s'il vous plaît.
Bougez pas.
Ah non.
Bougez pas. Mathieu, non, un peu plus.
Ah, le bruitage.
Un peu plus c'est de profil. Vache. Attendez, parce que là, on est plus Gandalf que Saruman.
Oh hey.
Hey, votre dernier coiffeur qui parlait de votre perte de masse capillaire, ne s'y trompez pas. Bah oui, tant pis. J'essaierai d'arranger ça avec Photoshop. Les micro-trottoirs, on va voir. Je sais plus. C'était sympa. On verra tout à l'heure.
Génial. À vos côtés, Paul, vous ne le savez pas, mais vous avez beaucoup de chance. En effet, Manon est rarement là le lundi.
Oh non, ça va.
Un jour qui est souvent pour elle et son foie un sas de décompression. Après un week-end riche en karaoké, soirée playboy et consommation irraisonnée de substances euphorisantes, Manon, vous êtes notre spécialiste réseaux sociaux. Chaque jour, vous nous décryptez les polémiques qui naissent aujourd'hui.
Ça a été ce week-end, je tiens à préciser.
Vous m'avez l'air en pleine forme.
Oui, oui, ça va. Et si je vous disais que des prêtres gays américains étaient traqués via des applications de rencontres? Malheureusement, ce n'est pas le pitch d'un nouveau thriller de HBO, mais bien ce qui se passe actuellement dans le pays. Je vous en parle dans ma veille sanitaire.
Vers 16h30, ça me chagrine beaucoup car je tiens à ma réputation d'animateur juste, magnanime et indulgent avec ceux qui ont péché. Mais au vu des dernières déclarations scandaleuses de Quentin Lui me comparant à Saruman, Qui plus est, un Saruman souffrant de calvitie, je suis obligé de lui infliger une pénalité pour le Zoom Zoom Test qui démarrera aujourd'hui.
Génial.
Avec 2 points de retard contre le pouvoir du Mordor, il ne peut y avoir de victoire. En fin d'émission, c'est avec un plaisir teinté d'excitation en ce qui concerne Quentin qu'on retrouvera une nouvelle humoriste qui était notre invitée l'autre jour, Rosa Burstein. Vous êtes content, qui nous dira si elle est sensible aux thèses réinformationnistes. Est-ce qu'on dit les thèses réinformationnistes, Paul Conge, déjà ?
Non, pas vraiment.
Pas vraiment, c'est un néologisme.
Oui, on pourrait juste dire les thèses d'extrême droite.
Ah oui, carrément, à vous. Ah, on peut faire un raccourci aussi rapide entre les deux.
Oui, parce qu'en fait, la réinformation, c'est tout ce qui est connoté d'extrême droite, en fait. Hein. C'est, vous avez derrière des militants d'extrême droite qui jouent aux journalistes. Donc oui, on peut faire ce lien.
On va évidemment rentrer dans le détail, mais ça n'a pas essaimé un peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réinformation reste 100% des idées d'extrême droite.
Alors c'est clairement, on est à l'extrême droite, ça s'est répandu à l'extrême droite. Et aujourd'hui, la seule chose à laquelle on pourrait assister, c'est une petite réappropriation de ça par les mouvements anti-vaccins complotistes. Mais ça n'a pas essaimé à gauche, par exemple.
C'est déjà une bonne réponse. Alors, avant de plonger dans les méandres de cette réinformation, il nous faut déjà comprendre d'où vient ce concept, qui l'a forgé, et pour ce faire, quoi de mieux qu'un agent double du FBI dont la couverture de spécialiste média ne trompe personne. Il est
personne.
En fait le cheval de Troie de Fox News en France. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alors Cyril, ce concept de réinformation, d'où ça sort ?
Et figurez-vous que ça vient d'une de vos idoles de jeunesse,
hein,
de ces leaders charismatiques qui vous ont donné envie de vous engager en politique. Vous étiez d'ailleurs sur la liste de sa femme, Vitrolles, lors de sa campagne victorieuse.
Oh là là.
À la fin des années 90, tous les rêves étaient permis. C'est à Bruno Maigret qu'on doit le terme réinformation. À l'époque, il était encore au Front National, il n'avait pas encore trahi Jean-Marie Le Pen, c'était même le numéro 2 du parti. Bruno Maigret utilise donc le mot réinformation pour la première fois en novembre 1997. Ça se passe lors d'un colloque du FN. Maigret appelle, je le cite, à une réinformation qui gomme le stigmate des années de désinformation subies. Vous l'avez compris, c'est à l'extrême droite que ce concept prend ses racines.
Selon elle, l'extrême droite, on serait donc mal informé, Cyril.
Oui, pour elle, les médias mainstream serviraient la même propagande à tout le monde, ils cacheraient les vrais problèmes, il serait donc grand temps de réinformer les populations. C'est sur ce postulat que vont naître de très nombreux sites internet et que va prospérer la fachosphère, un mot né de la rencontre des militants d'extrême droite et des sphères numériques. Réinformation, désinformation, fake news, faits alternatifs, post-vérité, c'est tout un langage qui apparaît au cours des années 2010 avec en point d'orgue l'élection de Donald Trump qui reprendra à son compte tous ces termes pour disqualifier les médias qu'il critique. D'ailleurs, en 2016, le prestigieux Oxford Dictionnaire anglais, le prestigieux dictionnaire d'Oxford fait de post-vérité son mot de l'année. 7 ans plus tard, est-ce qu'on a déjà basculé dans autre chose? Et si oui, dans quoi? Dans pire? Ou est-ce que la vérité, les faits regagnent du terrain? C'est ce qu'on va voir durant cette émission.
Merci Cyril et bisous à Bruno Maigret qui manque à la politique française. Paul Conge, on vient de parler de Bruno Maigret, ce qui a dû d'ailleurs lui faire chaud au cœur vu que ça fait quand même 27 ans que personne à part sa femme n'a prononcé son nom. La réinformation, donc on reste là-dessus, c'est intrinsèquement d'extrême droite, ça n'est jamais allé beaucoup plus loin. On reste, ça n'a pas les complotistes avec un grand C, on n'en trouve pas à l'extrême gauche.
On trouve des complotistes à l'extrême gauche,
bien sûr.
Mais la réinformation, c'est vraiment effectivement estampillé extrême droite. Et vous l'avez rappelé à l'instant, c'est Bruno Maigret qui lance le terme. Mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Ce qui lui a donné sa substance, sa consistance, c'est un autre membre du Front National de l'époque qui s'appelle Jean-Yves Le Gallou, qui ne dit plus grand-chose aujourd'hui, mais qui en fait est un intellectuel organique de la mouvance. Et c'est lui qui a théorisé par exemple la préférence nationale pour le FN. Et c'est lui qui lance en 2003 Polémia, qui est un mouvement voilà qui vise notamment à propager cette réinformation qui est entendue hein, comme voilà un effort de contrecarrer la bien-pensance, le politiquement correct. Les discours médiatiques dominants pour imposer dans la sphère de l'information les thèses d'extrême droite.
Les grands visages de la réinformation aujourd'hui en France, le visage principal c'est Éric Zemmour.
Je ne sais pas si on peut franchement l'associer à la réinformation en tant que telle, parce que la réinformation c'est vraiment, il faut comprendre que la réinformation, c'est un peu la ligne éditoriale de la fachosphère. Et cette fachosphère, en fait, c'est une myriade de sites internet d'actualité, enfin qui se disent d'actualité, qui offrent une vision version revue et corrigée
une
de l'actualité.
Une vision alternative.
Alternative, en poussant les 3 thèmes qui leur sont chers, à savoir l'islam, l'immigration, l'insécurité. Et on en trouve tout un tas. Vous avez F2 Souche, qui est le navire amiral, qui, voilà, en fait, reprend souvent des faits divers de la presse mainstream en les retitrant de façon anxiogène et en insistant souvent sur l'origine ethnique des suspects et des mises en cause. Voilà, et vous avez toujours de la création de contenu autour de ces trois thématiques.
Alors, ça, j'ai compris tout ce que vous avez dit, sauf en quoi Éric Zemmour ne fait pas partie de cette mouvance de la réinformation. Parce que lui ne se présente.
Parce que c'est un homme politique.
Oui, mais avant, c'était un journaliste.
Absolument. Mais alors, il écrivait. Alors, ça fait longtemps qu'il n'a plus une activité journalistique en tant que tel. Hein. C'était devenu surtout un éditorialiste. Et il ne participait pas, en fait, à tous ces. À cette création de sites internet.
Mais il s'appuyait dessus, quelque part.
Il s'est, plus tard. Absolument. Alors, pour le coup, il s'est tout à fait appuyé là-dessus. On a vu qu'il était un lecteur de F2 Souche, de Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, mais ce n'est pas un acteur de la réinformation.
On va parler de tous ces sites. Alors, parfois, la réinformation a quand même du bon. Car sur certains forums du Darknet, on dit qu'Alain Bashung n'est pas mort, qu'il fait juste une pause avec Tupac sur une île secrète aux Bahamas pour renouer avec l'inspiration et qu'il nous reviendra bientôt avec un nouvel album en duo avec Prince. Si seulement la réinformation était bien informée. En attendant, voici Bashung, résident de la République sur Inter.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets. Résident, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux.
Zoom zoom zen sur France Inter.
Une désinformation sournoisement baptisée réinformation. Zoom aujourd'hui sur ce concept complotiste venu d'extrême droite avec justement un spécialiste de l'extrême droite, journaliste chez Marianne, Paul Conge. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des mouvements de réinformation en France concrètement? On va pas, je sais pas si on peut citer, donner des noms de sites sans leur faire de la pub, mais il faut quand même qu'on sache de quoi on parle.
Oui, d'ailleurs on peut donner des noms de sites. Hein. Mmh. Si vous voulez, la mouvance de la réinformation, c'est un assemblage de sites internet qui vont à peu près dans le même sens, qui vont souvent singer les codes des sites d'actualité traditionnels.
Pour qu'on ait l'impression, nous, en tant qu'internautes, qu'on est sur un vrai site d'information.
Exactement. Ils reprennent exactement les codes du journalisme traditionnel sur Internet, sauf qu'ils en offrent une version, comme je vous disais, sélectionnée, choisie, avec leurs obsessions du moment. Ce sont souvent, en fait, des petites équipes derrière des sites Internet. Donc, vous avez F2 Souche, que j'ai cité tout à l'heure, qui est vraiment le premier à avoir une audience folle. Il est né en 2005. Mais vous avez un tas qui, voilà, vous diront peut-être quelque chose. Vous avez Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, donc animé donc par un vrai mouvement politique. Vous avez Boulevard Voltaire, vous avez Livre Noir, TV Liberté, qui est une vraie chaîne d'information, une web télé sur Internet, qui emploie quand même 27 salariés. Il y a un monde fou derrière.
Ils sont financés comment, ces sites ?
Alors, c'est toute la question. Souvent, alors pour les plus gros, hein, pour les chaînes d'information, par exemple, les chaînes de réinformation, du coup, vous avez au départ une levée de fonds, ensuite des donateurs, après des recettes publicitaires. Mais pour l'essentiel de cette réinformation en ligne, qui est donc, vous pouvez compter quelques dizaines, quelques centaines de sites internet, c'est essentiellement les dons et la publicité. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, en fait, pour faire fonctionner un site comme ça.
Alors, quand le site s'appelle F de Souche, pour le coup, on a beau être face à un site d'information, entre guillemets, on comprend un peu où on est. Ouais. Pour d'autres sites, c'est un peu plus sournois. Quels sont les red flags qu'il faut guetter pour... Je dis red flag parce que ce sera le terme de l'émission de demain. Mmh. Un peu d'autopromo au passage. Mais qu'est-ce qui doit nous alerter? Et on se dit, là, on est sur un site un peu particulier quand même.
Souvent, vous allez voir le vocabulaire employé. Vous n'aurez pas une très grande neutralité dans les termes. Vous ne serez pas face à des articles très objectifs. Et puis, voilà, quand vous voyez qu'en fait, 90% des contenus tournent autour des musulmans, des immigrés, ou tiennent un discours anti-gouvernement, vous avez quand même de fortes chances de vous trouver sur un site.
Certaines mauvaises langues diront qu'il y a déjà certaines chaînes info, dont une en particulier, qui ressemble un peu à ce que vous décrivez.
Il faut voir que la réinformation est vraiment... Ce qui peut la définir, c'est vraiment ses obsessions. Si vous n'avez vraiment que du contenu qui est lié en fait au thèse d'extrême droite, vous avez de fortes chances d'y être. De toute façon, vous pouvez aussi juste taper le nom dans une barre de recherche, vous saurez assez vite de quoi il s'agit. Mais on peut donner quelques noms. Vous avez Droz Info, Brazatao, Toulouse Info, Languedoc Info. Ça s'appelle quand même
Languedoc Info.
Comme ça, on dirait pas que c'est connoté extrême droite. Ça montre bien la volonté qu'il y a quand même de se dissimuler, vraiment de pas agir à visage découvert. Et ça, c'est quand même assez caractéristique.
Manon. On parle des sites internet, mais je pense aussi aux réseaux sociaux de réinformation. Je pense à Truth Social de Donald Trump. Il y en a beaucoup aussi.
Oui, parce que évidemment, l'information, d'ailleurs, toute la presse s'en rend compte, se fait sur des sites internet, mais elle se fait aussi énormément directement sur les plateformes. Donc, vous avez qu'on pourrait appeler des influenceurs d'extrême droite, Damien Rieu au premier chef, qui était un ancien porte-parole du mouvement identitaire, qui font cette réinformation-là directement en ligne, sur les chaînes Telegram, sur des comptes Twitter.
Qui fait partie de la campagne de Zemmour.
Absolument. Et qui vont parfois se retrouver aussi sur des sites internet. Enfin, l'un n'exclut pas l'autre.
Ouais. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire face à ces sites? Est-ce qu'il faut couper leur source de financement? Est-ce qu'il faut essayer de les étouffer? Ou au contraire, finalement, ça serait pas malin d'essayer de museler comme ça ces sites? Et la réponse, c'est le débat et juste essayer de leur opposer des arguments. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qui les avez étudiés?
Alors, les museler... En fait, le fait est que ces sites-là ne commettent pas forcément d'infractions en existant. Vous pouvez... Bien sûr, et ça arrive souvent, avoir des discours racistes à l'intérieur. On l'observe parfois, mais pas toujours. Et justement, c'est là où ils sont quand même assez forts, c'est qu'ils arrivent à faire en sorte de ne pas franchir la barrière de la légalité. Si vous regardez F de Souche, finalement, c'est une revue de presse anxiogène qui ne fait que reprendre des informations qui sont parues ailleurs, mais en les tronquant, en reprenant que ce qui les intéresse.
Oui, pour terminer cette partie, c'est important de revenir pour la définition de la réinformation. Comme vous me le disiez tout à l'heure, et contrairement à ce que j'ai dans un de mes lancements, réinformation n'est pas forcément désinformation. Ça peut être des vraies infos, des infos de l'AFP, mais juste axées uniquement sur les thèmes qui les intéressent.
Oui, parce qu'en fait, certains sites, ce sont juste des fermes à contenu. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller puiser des articles qui sont parus dans la presse mainstream et qui correspondent en fait à leur vision du monde. Et en fait, par effet de cumul, vous allez avoir tout un tas de faits divers impliquant des personnes issues de l'immigration, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne vous informez que via les sites de réinformation, vous aurez de fortes chances de penser qu'il y a une guerre civile raciale en cours, que d'inavouables réseaux sont en train de gangréner l'État. Vous saurez tout des méfaits du multiculturalisme, mais vous saurez pas grand-chose du reste de l'actualité, la géopolitique, les questions de société. La pauvreté, enfin tout ce que vous voulez, enfin, c'est un peu monomaniaque.
Face à vous, Paul Conge, vous l'avez compris, il est en pleine reconversion professionnelle. Le moment est venu d'écouter le travail de celui qui voudrait plutôt à l'avenir qu'on regarde son travail. bifocale, piqué, balance des blancs depuis qu'il a lu la photo réflexe pour les nuls, Quentin, lui, se sent pousser des ailes. Sera-t-il, comme il l'espère, la star des prochaines rencontres de la photo d'Arles ?
Je vous laisse
vous faire une idée sur son Instagram, mais en attendant cette consécration méritée, Quentin, vous continuez à arpenter les rues pour faire réagir les passants à notre thème du jour, un thème qui les a inspirés aujourd'hui.
Eh bien, vous ne croyez pas si... Attendez, hop, on va pas partir tout de suite.
Non.
Vous ne croyez pas si bien dire, la première réaction que j'ai eue, c'est celle-ci.
Donc, réinformation. Alors, on va s'asseoir, on va aller prendre une bière, on va discuter pendant 3 heures de ça. Là, répondre ça, voilà, en 5 minutes dans la rue.
Eh ben voilà, mais si, c'est parti pour 3 heures de micro-trottoir. On chamboule toute la grille de France Inter, ce qui devrait nous amener à peu près à la moitié du téléphone sonne. Fabienne Synthèse, qui adore mon énergie débordante dans les couloirs, se fera un plaisir de récupérer l'antenne derrière.
Bien sûr, bien sûr. Calmez-vous, Quentin, calmez-vous, c'est notre première saison, on va pas se faire mal voir quand même.
Qu'est-ce que vous êtes bon élève, Mathieu. Bon, bah dans ce cas, on va tenir les timings. Pour parler réinformation, j'ai fait les sorties de bureau, et c'est à la sortie d'un EHPAD que j'ai croisé Maxime, cet infirmier de 33 ans que vous avez entendu, et qui a visiblement beaucoup de choses à dire. Comment il s'informe, lui, déjà?
Moi, quand je pars le matin, donc à 6h30, j'allume France Culture ou alors France Info. Toutes les 20 minutes, il y a un brief info en fait sur les grands événements qui se passent, qui sont à suivre. Après, comme toutes les stations de radio d'information, ils ont tendance à mettre les gros titres qui flashent et qui sont bien attractifs. Mais voilà, c'est la radio que je trouve la plus objective. Et j'ai aussi l'application France Info sur mon téléphone. Mais je trouve qu'elle a tendance en fait à bombarder, réinformer.
Maxime qui s'approprie notre mot du jour en mélangeant un peu la réinformation et la surinformation. Je lui demande comment nous vient une info. Est-ce qu'il pense qu'elle peut être orientée? Tout de suite, il pense à un fait marquant de notre époque.
Gros sujet d'actualité, Ukraine versus Russie. On le voit bien, enfin voilà, en Russie, on nous envoie une image de l'information qui semble très modelée, façonnée pour donner un petit peu au Kremlin une forme de gloire, de splendeur, et donner du sens et limite de la vertu, en fait, sur l'invasion de l'Ukraine. Nous, l'OTAN va complètement défendre autre chose. Bref, très compliqué de pas prendre parti, mais se dire qu'est-ce qu'il faut en retenir.
J'arrête maintenant ces deux collègues. Elles viennent de terminer leur journée. Bonjour.
Bonjour.
Quels sont vos prénoms?
Julie, Stéphie.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
On travaille dans une agence immobilière.
Comment elles perçoivent l'information en France? Est-elle tronquée?
Je pense qu'il y a certaines infos, oui, où il y a de la manipulation. Surtout à la télé, ouais. Bah, genre BFM TV, non? Ça vous parle?
Je vois bien. Ouais.
Non, mais je trouve que, par exemple, là, les manifestations, ils vont dire qu'il y a moins de personnes alors qu'il y en a plus dans la rue. On n'est pas informé correctement, quoi.
Ils disent ce qu'ils veulent à leur sauce et... Dans le sens qui les arrange.
C'est ça.
Ou dans le sens qu'on leur pousse à dire, je sais pas.
Ouais, qu'on leur pousse à dire, mais qui serait ce « on » ? On sent, avec cette seule phrase, toute la défiance que peuvent avoir certains Français envers les médias. J'arrête ce retraité maintenant. Il s'appelle Michel, il a 72 ans, il revient des courses. Je lui demande comment il s'informe de son côté.
Je regarde les informations régionales. Ouais, France 3. Et là, c'est notre région et les autres... Après.
Oui, les autres après. Bon, Michel semble avoir un avis tranché sur la place de l'info internationale. Mais alors, est-ce que nous sommes bien informés en France?
Non, on n'est pas informés du tout. Il y a des fausses informations, et comme le LCI, c'est des menteurs comme tout.
Pourquoi LCI, c'est des menteurs?
LCI, parce que c'est pas des bonnes informations, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose.
Mais est-ce que ça veut dire que c'est faux?
Oui et non. Ils disent que toujours, qu'est-ce qu'ils disent le gouvernement, c'est tout.
Mais quels intérêts ils auraient à le faire?
Ah bah parce que c'est le porte-monnaie. Parce que c'est lui qui le paye.
La pluie vient se mêler à ce sujet déjà compliqué. Je vais à la rencontre de ce couple qui s'abrite sous un parapluie. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Quels sont vos prénoms?
Gilles.
Magali.
Qu'est-ce que vous faites l'un et l'autre dans la vie?
Fonctionnaire.
Infirmière.
Je vous fais dire un mot.
Réinformation.
Comment nous vient l'information? Comment vous vous informez?
Ah mais nous on est très classique, on regarde des médias, enfin Le Monde, Libération, donc voilà, à l'ancienne.
France Inter, Libération, Le Monde, ouais. Le Canard Enchaîné.
Classique, traditionnel, pourquoi est-ce qu'ils ont confiance?
Enfin, moi je considère qu'il y a une certaine déontologie, donc ce qu'on nous écrit, ce qu'on nous dit dans ces médias-là est, je dirais, objectif, clair, vérifié.
Oui, moi c'est évident, hein. Dès que je trouve une information, donc j'ai une information, je vais la vérifier, je vais la confronter à des choses connues. Pour une infirmière par exemple, c'est important, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur la vaccination, donc je peux dire qu'effectivement, les fils d'infos sur Twitter, Facebook et autres, ça a été une catastrophe.
Mais alors cette défiance envers les médias, ces comptes sur les réseaux sociaux qui proposent des alternatives, d'après eux, qu'est-ce que ça raconte?
Il y a beaucoup de gens qui, quelque part, sont un peu sortis d'une forme de système, une forme de jacquerie, de grande prise de distance par rapport à tout ce qui est traditionnel, institutionnel,
Et ça conduit effectivement à des visions complotistes, une remise en cause systématique.
Le fait de ne pas être un mouton, par exemple.
Oui, mais ce qui est absurde, parce que même en se renseignant avec des médias traditionnels, on peut se faire sa propre opinion, au contraire.
Recevoir l'information, la vérifier, croire à la déontologie, ou au contraire, imaginer que tout est faux, acheter, la lecture du mot du jour ne vous a décidément pas laissé indifférent. Vous en voilà informé ou réinformé, qui sait ?
On zoome aujourd'hui sur le concept de réinformation avec notre invité Paul Conge. On vient d'entendre dans la rue. Ce qu'on peut retenir, c'est quand même une certaine défiance des Français envers les médias traditionnels. Est-ce que c'est précisément sur cette défiance que surfent les partisans de la réinformation, ceux qui ont des sites de ce type-là ou qui sont sur les réseaux ?
Oui, bien sûr. Si vous êtes un grand amateur de sites de réinformation, pardon, j'ai failli fourcher, il y a de fortes chances que vous ayez au départ déjà une vision vraiment qui discrédite les journalistes traditionnels. D'ailleurs, la réinformation prospère tout à fait là-dessus. Hein, c'est l'idée que je peux vous lire quelques mots qui ont été prononcés par une des personnes qui est le fer de lance de la réinformation. Il vous explique que les médias, ce sont les troupes d'occupation mentale qui colonisent nos esprits, que les journalistes asservissent le peuple à l'idéologie politiquement correcte, à l'idéologie cosmopolite, marchande, mondialiste. On voit bien que la défiance des médias, ça va être le terreau de la réinformation. Proposer une information alternative à celle qui est proposée par des journalistes dont on estime qu'ils relèvent d'une certaine idéologie plutôt gauchisante.
Qui est cette personne que vous citez ?
Ah pardon, j'ai cité Jean-Yves Le Gallou que je citais tout à l'heure.
Ah, c'est le fameux Jean-Yves
Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou qui est un des fers de lance de la réinformation en France.
Non. La réinformation sans Internet, elle n'existe pas, ou justement elle arrive à s'immiscer dans les médias mainstream sans qu'on s'en rende compte. Quand on entend les gens, on a l'impression de ça.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'était une forme de militantisme politique qui était un peu à la marge, mais on constate depuis les années 2010 que cette mouvance, en fait, a réussi à acquérir une sorte de pouvoir prescripteur, même jusque dans des médias grand public. Il n'est pas très rare de voir que certaines informations sorties dans des canaux de réinformation traditionnels, en fait, en sortent pour se retrouver dans, par exemple, Valeurs Actuelles, qui est un exemple parmi d'autres.
Et pour vous, Valeurs Actuelles, c'est un média réinformationniste, même si on a inventé le mot aujourd'hui ?
Non, je ne le qualifierais pas de cette façon-là. Valeurs Actuelles, c'est un hebdomadaire qui est un peu au croisement de plusieurs droites et qui, voilà, pour moi, fait un trait d'union entre l'extrême droite et la droite. Et parmi certaines sources d'information qu'ils peuvent utiliser, il y a des militants de la réinformation.
Quentin. Michel qui nous dit LCI, ce sont des menteurs. Ils disent que ce que le gouvernement leur dit de dire. Ou les deux collègues qui parlent de BFM, qui disent que ça les arrange dans le sens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça raconte ? Quand vous avez écouté ces réactions dans la rue, je vous ai vu sourire et puis froncer les sourcils.
Parce que je suis journaliste, donc en fait ces discours-là, je les entends quand même très 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 régulièrement. On nous les oppose très fréquemment. Il y aurait des ressorts inavoués en fait qui nous animent. Il y aurait des allégeances qu'on aurait fait à des sphères occultes ou qu'on connaît pas. En fait, ça revient très très souvent. On a beaucoup de mal en fait à déconstruire ces discours-là parce que les médias sont critiquables et je pense qu'il faut une critique des médias qui soit qui soit juste, qui soit même scientifique. Hein, elle existe. Il y a une sociologie de la presse qui est assez efficace là-dedans. Malheureusement pour la contrer, la meilleure façon, je pense, c'est vraiment de faire goûter du vrai journalisme, hein, de faire goûter du journalisme d'enquête et sortir de la hard news et sortir un peu de cette information en continu.
Vous
qui
le faites,
permet
vous
pas de
vous
faire du qui permet d'avoir du recul sur les événements.
Vous prenez ce temps-là pour expliquer votre métier et dans quel cadre ?
J'essaye de le faire, mais on n'a pas toujours l'occasion. Alors sur les réseaux sociaux, c'est même pas la peine parce que malheureusement, c'est pas vraiment un espace de débat très très accueillant. Mais oui, il faut faire cette pédagogie-là, et je pense que chaque journaliste, en fait, doit être un peu ambassadeur aussi de ses pratiques et de son métier. Quoi.
Parmi ces mouvements de réinformation sur Internet, certains prennent vraiment forme dans la vie. C'est le cas de la confrérie Suavelos, dont vous parlez dans votre livre Les Grands Remplacés. Mm-hmm. Ces gens qui ont quitté la France pour se retrouver entre blancs hétérosexuels dans des pays de l'Est. Oui. Qu'est-ce qu'on sait de ce genre de groupe ? Est-ce qu'ils font des émules ? Et ça concerne vraiment combien de personnes ?
Oui, c'est vrai que dans mon livre, il y a tout un chapitre qui est consacré à ce mouvement Suavelos, alors qui s'est réintitulé, qui s'appelle Les Braves maintenant, qui est un mentor, décidément, qui s'appelle Daniel Conversano, qui est un idéologue d'extrême droite. Et effectivement, lui, sa grande idée, c'était de dire, bon, écoutez, la France a un problème avec l'immigration tellement grave qu'on n'arrivera jamais à faire marche arrière.
Partons.
Donc partons régénérer la race blanche ailleurs, dans un pays qui est épargné par l'immigration. Alors lui, il s'est installé en Roumanie et il y a plusieurs de ses adeptes qui l'ont suivi.
Andrew Tate ? Je sais pas, en Roumanie. Il aurait pu.
Je sais pas s'il y a des liens entre eux. Il aurait pu. Je pense qu'il y a des liens au moins idéologiques. Et il a réussi, en fait, effectivement, à faire en sorte que plusieurs de ses adeptes quittent leur pays d'origine, donc la France, mais quittent leurs amis, leur famille, et s'installent à l'étranger.
C'est la puissance du discours.
C'est ça, c'est quelque chose de très pratique. Il vous fournit pratiquement un kit clé en main pour trouver un travail, un logement, se faire des amis. Et vraiment, on est vraiment dans une espèce de communauté autonome qui fantasme un retour de la suprématie de la race blanche.
On continue à parler réinformation dans Zoom Zoom Zen avec notre invité Paul Kon. Justement, est-ce si facile que ça de détecter ce qui relève de la stratégie de réinformation ? Réponse à suivre dans le Zoom Zoom Test, juste après une chanson feel good qui va vous donner envie de chanter, de danser la vie. Voici Zao de Sagazan. Tristesse sur France Inter.
Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, le peintre qui les renverse. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Qui va là? Qui va là? Qui va là? Ça c'est pas moi. Mais qui va là? Mais qui va là? Qui va là? Tristesse, dégage de là. Marionnettiste contrôle total des sentiments, la tristesse me déteste. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. À part mes pulsions de création, je contrôle tout le reste. Je contrôle tout le reste. Il arrive des fois qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse.
Marionnette, on est... Marionnette, on est et on le reste. Marionnette, on est. Ah, je déteste. Je déteste. Ah, je déteste. Je te déteste. Ah, je déteste. Oui.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Zoom Zoom Zen spécial réinformation, désinformation aussi aujourd'hui. On va voir si vous avez du pif pour distinguer ce qui est une vraie information, du moins un vrai titre d'article dans la presse sérieuse et un article du Gorafi. Manon, Quentin, attention.
Ah, super,
top.
Oui.
En Allemagne, une municipalité tente d'imposer la vente de saucisses lors d'un festival vegan.
C'est vrai.
Vrai.
Vraie information. Bravo Quentin. En Allemagne, vous le savez peut-être, on ne plaisante pas avec la saucisse, surtout si elle est locale. D'où l'indignation des producteurs de saucisses de la ville de Kassel quand on leur a expliqué que leur saucisse était persona non grata, chipolata non grata, sur les stands de ce festival vegan, plaçant les organisateurs devant un dilemme, soit laisser un peu de place à ce produit local, soit se mettre toute la ville à dos. C'est finalement le conseil municipal qui a tranché et a autorisé la vente. Le portable de Patrick Balkany sonne en plein tribunal avec la musique des portes du pénitencier.
C'est vrai. Ah non, c'est les tontons flingueurs.
Faux.
Alors là, je ne sais pas à qui donner le point, parce qu'effectivement, c'est faux, c'est presque, c'est le titre exact, était le portable de Balkany sonne en plein tribunal avec la musique des tontons flingueurs.
J'ai le point, là.
Le point revient.
Le point revient,
me signale-t-on en régie, à l'invité.
Non, mais n'importe quoi.
Qui a répondu.
Super.
Très bien, lui aussi.
Merci.
Ça la Normandie abat un ballon espion breton au-dessus du Mont-Saint-Michel.
Vrai.
C'est faux, ça.
C'est vrai, c'est-à-dire Manon, c'est-à-dire que là, on réfléchit.
J'ai par chez moi.
Non,
la Normandie abat un ballon espion breton au-dessus
du Mont-Saint-Michel. Faudrait une armée normande.
C'est mon algorithme TikTok,
des
ça va.
Des forces armées normandes.
Avec du beurre, de la crème.
Des missiles à base de beurre. Voilà une guerre qui serait belle. Non, c'est le Gorafi. Inde, soupçonné d'être un espion du Pakistan, un pigeon est finalement libéré.
Faux.
C'est vrai.
Vraie info. Alors que le pigeon survolait la région du Cachemire, qui est toujours une source de tension importante entre l'Inde et le Pakistan, il a été intercepté par les autorités indiennes qui ont découvert un morceau de papier attaché à une de ses pattes. Après avoir tenté de déchiffrer le message codé, les autorités indiennes se sont finalement rendues compte que c'était juste le numéro de téléphone du propriétaire du pigeon. Ardèche, l'asiatique voleur de slip et de saucisson avait cette identité.
Vrai.
Ça ressemble à de la presse locale. Ouais, c'est vrai.
Vrai titre du Dauphiné. La presse régionale étant une mine d'or, il nous faut compliquer un peu ce quiz en vous demandant de compléter ces titres de la PQR, oh, qui donc existe vraiment. Top. Rennes, sa femme accouche, il s'enfuit avec sa maîtresse.
Pardon.
La sage-flamme.
Sage-flamme.
La sage-femme.
D'accord.
Un point en moins pour vous.
Oh.
Ou le placenta.
Oh non, c'est horrible.
La sage-femme, c'est drôle. C'est pas drôle.
Mais... Non, c'est drôle.
Non, c'est pas drôle.
Mais...
Pensez à cette pauvre femme qui nous écoute aujourd'hui.
Je suis d'accord.
Le placenta, allez, c'est
le placenta, c'est une bonne réponse. Il s'enfuit avec le placenta. Une belle histoire signée La Dépêche.
Mais pourquoi faire?
Mais j'en sais rien.
Oh, bah,
attention,
dans
top
un bocal,
titre du Gorafi ou vrai titre. Emmanuel Macron offre un portrait de René Coty au président congolais.
Vrai.
C'est faux. Bah, c'est faux.
Elle a trop regardé, ouais, 717. C'est faux, le Gorafi. La RATP va recruter 500 employés chargés de venir s'excuser auprès des usagers.
C'est faux.
Le Gorafi. La police frappe à sa porte. La police frappe à sa porte. Il est nu et mange du cassoulet.
C'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est 20 minutes. Addict au heavy metal, il obtient une pension d'invalidité.
Vrai.
Vrai info, La Dépêche. Elle oblige ses enfants à sauter des repas pour se payer une paire de seins.
Vrai.
Hélas, vrai info, Manon,
non,
hélas,
c'est
oui.
Chaud,
le
c'est
président
chaud.
Islandais relance un vieux débat pour ou contre la pizza à l'ananas.
Vrai.
Faux. Bah non, c'est pas possible.
Vrai.
Mais il a pas que
en
ça.
En visite dans une salle de classe, le président Gudni Johansson, que vous connaissez bien et qu'on salue, interrogé par des enfants, a dit son opposition ferme à la présence d'ananas en garniture des pizzas, suscitant un véritable tollé dans le pays. Coupe du monde 2022, un mauvais réglage de la clim provoque des chutes de neige pendant un match.
Faux.
Le Gorafi. Rochefort, il cambriole son ami qui lui a déchiré sa photo d'Hitler 2 ans plus tôt.
Vrai.
Mais non, c'est...
Vraie info, Manon, vraie info. Dans Sud-Ouest, à noter que depuis, Cyril Lacarrière a pardonné à son ami.
C'est pas possible de faire ça.
Enfin, attention, là, je vous l'annonce, c'est un vrai titre, pas du Gorafi, mais à vous de le compléter. Il se tapait des chèvres en tirant des rails de coke, les étonnantes révélations de... Claude-François Junior à propos de son père, Édouard Balladur Junior à propos de son père, Manon Mariani à propos de son père.
Claude-François.
Réponse A. Eh bien écoutez, eh bien, un titre qui réussit le prodige de faire plus putassier qu'un titre de France Dimanche, sachant qu'évidemment quand on lit l'article du site public, on découvre que Claude-François Junior dit l'inverse, à savoir qu'il en a marre des légendes qu'il entend sur son père, à écouter les rumeurs, il se tapait des chèvres en tirant des rails de coke, c'était pas le titre qu'ils ont choisi. Pratique évidemment totalement étrangère à Ange Mariani, le papa de Manon, qui a composé Caresse du désir à la cristalline, comme chacun sait, victoire de
bisous,
Manon
papa.
Mariani. Et bisous papa. Paul Conge est toujours avec nous pour tenter de comprendre les ressorts de la réinformation, ce que ça dit aussi de notre époque. Quelles sont les motivations en fait, des personnes qui créent ce type de contenu? Alors, on imagine qu'il y a de vrais idéologues, des gens qui sont persuadés que le grand remplacement arrive, mais est-ce qu'il n'y a vraiment que des idéologues, que des gens sincères ou d'autres qui peuvent chercher l'argent, le buzz, la renommée?
Alors, au départ, en tout cas, ce qu'ils cherchaient à faire, c'était faire de la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rendaient bien compte qu'ils étaient marginalisés dans le champ politique et que ce qu'il fallait faire, plutôt que de faire le combat pour les urnes, ils allaient faire le combat dans les têtes et qu'il s'agissait en gros de répandre les idées qui étaient à leur agenda, notamment l'idée de grand remplacement, par exemple, l'idée que le multiculturalisme est un échec. Donc vous avez vraiment des transfuges un peu de l'extrême droite qui se sont refait une carrière dans le domaine de la réinformation, parce que c'était pour eux le meilleur moyen finalement de changer les opinions et de changer la vision du monde des gens. Donc là, au départ, c'est idéologique, c'est du combat culturel, hein, un peu à la Gramsci, hein, c'est le truc un peu à la mode. Mais vous avez aussi des gens maintenant qui travaillent pour ces sites de réinformation, qui sont effectivement absolument convaincus que leur lecture du monde est la bonne et que finalement il y a une guerre raciale en cours, que l'immigration est complètement incontrôlée et qu'elle remplit les prisons et qu'elle remplit les tribunaux. Vous avez des gens qui sont sincères en fait dans ce combat, très sincèrement.
Quentin ?
Comment ils prennent ce mot réinformation, ces sites que vous mentionnez ? Est-ce qu'ils l'affichent fièrement, genre premier site de réinformation ?
Oui, mais c'est Bruno Maigret qui l'a.
Ah, mais bien sûr. Alors, vraiment, il l'assume complètement. Si vous allez voir.
C'est pas un reproche, quoi.
Non, mais c'est même pas forcément négatif, hein, pour eux, c'est juste connoté. Mais vous regardez TV Liberté, par exemple, que j'étais tout à l'heure, hein, qui est une espèce de mini BFM de l'extrême droite, elle s'affiche première chaîne de réinformation.
Ouais.
Voilà, c'est totalement assumé, parce que la réinformation, finalement, ce serait l'information vertueuse.
Qu'est-ce qu'on sait des ingérences étrangères dans cette mouvance ? La chaîne russe RT a été interdite après l'invasion de l'Ukraine. Est-ce qu'elle participait, cette chaîne, par exemple, à ce projet de réinformation ?
Oui, on peut tout à fait classer RT parmi les chaînes de réinformation. Alors, pour ce qui est des ingérences étrangères, elles sont toujours assez difficiles à déceler. On peut faire une lecture a posteriori de ces choses-là et se rendre compte qu'effectivement, dans la mouvance, on a beaucoup de sites de réinformation d'extrême droite qui sont beaucoup plus pro-russes que le reste de la presse. Quand vous regardez le média Livre Noir, qui est au départ un média d'entretien vidéo, qui est devenu un vrai site d'actualité, qui a été lancé par Eric Tegner, qui est un ancien militant LR et aussi un ancien militant FN. Lui, au départ, quand il a lancé ce média, il voulait dire aussi que par leur travail de réinformation, ils voulaient contrebalancer les reportages qui étaient trop hostiles à Viktor Orban, par exemple, en Hongrie, ou trop hostiles à Vladimir Poutine. Et plus généralement, à l'extrême droite, on trouve quand même un trumpisme pro-russe beaucoup plus important que dans le reste du champ politique. C'est pas très étonnant que ça se retrouve sur ces sites-là.
Après tout, on a vu quand même chez Cyril Hanouna dernièrement sur une grande chaîne, un homme mettre en avant la théorie du complot de l'adrénochrome, une drogue faite à partir du sang d'enfants destiné à des pédosatanistes qu'on connaît tous, qu'on fréquente tous, puisqu'on est dans le milieu des médias, bien sûr, et on connaît ces gens-là. Donc, on voit bien que cette réinformation, en tout cas, disons, ce complotisme, il s'instille dans des grands médias aussi, pas que sur des plateformes ouvertement de réinformation.
Ah bah, bien sûr, ouais. Il y a clairement une perméabilité et certaines émissions, pour faire scandale, pour avoir un invité un peu sulfureux, vont avoir recours à des personnes qui appartiennent soit au champ de la désinformation, soit au champ de la réinformation. Ouais.
Manon ?
Ils s'immiscent dans les grands médias, mais aussi dans les plateformes, les réseaux sociaux que tout le monde connaît. Je pense à Facebook, à TikTok, etc. Comment ils arrivent justement à se perdre dans les algorithmes de tout le monde ?
Parce que les algorithmes n'ont pas forcément les mêmes mécanismes de sélection que nous. Donc en fait, tout simplement, ce sont vu que ce sont des contenus qui attirent beaucoup de monde, qui deviennent très très vite viraux, notamment parce que les sphères de la réinformation profitent de beaucoup de relais. Ils ont des personnes qui sont influentes, qui ont beaucoup de followers, qui vont propager aussi ces articles ou ces vidéos, qui vont être reprises un peu partout. Et ben l'effet de masse fait que l'algorithme va le prendre en considération, va le prendre en compte, et ça se retrouve mêlé effectivement au milieu de plein d'autres
contenus.
Ouais.
Quentin ?
Comment vous voyez l'avenir ? Est-ce qu'on va légiférer ? Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un va dire stop, qu'on arrête de faire ça ?
Mais alors, au nom de quoi ? C'est un peu la question. Qu'est-ce qui permettrait de censurer ces sites-là ? Franchement, pas grand-chose. On a quand même des lois qui garantissent une très grande liberté d'expression. Alors, elles s'arrêtent au racisme, elles s'arrêtent à plein de choses comme ça. Mais en vrai, quand vous regardez le contenu de ces sites internet, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas forcément illégal. Alors, vous avez des sites qui franchissent très, très clairement la barrière. Vous avez Démocratie Participative, qui est un site d'actualité satirique néo-nazi.
Ah oui, français. Comme son nom ne l'indique pas.
Comme son nom n'indique absolument pas. Qui, à l'intérieur, est farci de billets antisémites qui reprennent un peu l'actualité et qui
est éditorialisé.
Ça, ça tombe sous le coup de la loi. Vous avez plusieurs députés qui ont essayé de l'interdire. Il s'est réfugié sur le Darknet et il réapparaît sans cesse sous de nouvelles appellations. Et on n'arrive pas vraiment à l'interdire. C'est très dur de bloquer, de censurer. Généralement, il y a plutôt un effet stressant.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47.
Dans quelques instants, le moment que Quentin attend depuis deux semaines, puisqu'il y a deux choses qui l'obsèdent dans la vie, la photographie numérique et Rosa Burstein. Rosa qui était notre invitée l'autre jour et qui est aujourd'hui humoriste dans notre émission.
C'est grâce à elle que j'ai gagné au quiz, c'est pour ça.
Ah, c'est pour ça. Ah, oui, j'avais mal compris, Quentin. J'ai l'esprit mal tourné.
Quoi, on a fait équipe, quoi.
Voilà. Bref, en attendant, Quentin, puisque vous avez salopé la suite de mon lancement, nous allons nous tourner vers Manon Mariani, qui est notre expert réseaux sociaux. Aujourd'hui, Manon, vous nous parlez de certains utilisateurs qui devraient se méfier des applications de rencontre.
Imaginez, vous êtes inscrit sur Tinder, vous mettez en ligne des informations sur vous, votre localisation, vos photos, votre orientation sexuelle. Après tout, c'est le but d'une application de rencontre, partager des informations sur soi pour faire connaissance avec une personne. Imaginez maintenant si ces données personnelles étaient vendues. Le Washington Post a sorti une enquête absolument édifiante sur une organisation catholique du Colorado qui aurait dépensé, tenez-vous bien, 4 millions de dollars pour récupérer les données personnelles d'utilisateurs d'applications de rencontres. Leur but ? Traquer les prêtres qui seraient gays. Pour ça, ils auraient obtenu les données de certaines applications spécialisées dans les rencontres LGBTQIA+. Il y a Grindr, la plus connue, mais aussi Scruff, Growler, Jack D et même la mainstream OkCupid. Des données qui s'étendent entre 2018 et 2021.
Mais comment c'est même possible, Manon ?
Alors, en fait, aux États-Unis, il n'y a pas de loi qui protège les utilisateurs contre les entreprises qui veulent acheter et vendre leurs données. C'est légal. Les utilisateurs sont considérés comme des consommateurs et leurs données permettent d'aider les annonceurs à cibler leur publicité. Sauf que ça permet aussi d'attirer des acheteurs avec des intentions beaucoup plus dangereuses. C'est le cas de l'association catholique en question. Elle a recoupé les informations récupérées avec les résidences d'églises abritant des prêtres. Informations qui ont été partagées à des dizaines d'évêques à travers les États-Unis. C'est donc une chasse à l'homme géante et surtout homophobe qui s'est lancée ensuite. Et ce n'est pas la première fois que cette association fait des ravages. En 2021, elle avait forcé le coming out d'un prêtre en partageant ses données Grindr à un magazine catholique. L'homme s'était rendu dans un bar gay à plusieurs reprises et a été contraint de démissionner après ces révélations.
Mais les applications, elles disent quoi de tout ça ?
Alors, le porte-parole de Grindr a réagi en disant que ce n'était pas possible d'avoir accès aux localisations de ses utilisateurs. Il assure avoir fait des changements pour que ce type de données personnelles ne puisse pas être vendu. C'était il y a 2 ans. Il a condamné ces actes.
Nous sommes furieux des actions de ces justiciers anti-LGBTQ. Grindr a partagé moins d'informations avec les partenaires publicitaires que n'importe qui d'autre dans la tech. On a limité les infos que nous partageons à l'adresse IP, à l'identification publicitaire et aux informations de base nécessaires pour soutenir la diffusion de la publicité.
Des informations qui sont censées être anonymisées de façon à ce que les identités des personnes sur Grindr ne soient pas connues. Mais manifestement, il suffit de creuser un peu pour que ça arrive et ça fait énormément très peur à ceux qui utilisent les applications de rencontre. Les applis LGBTQIA+, sont censées être une safe place pour cette communauté, un endroit où ils peuvent se rencontrer, être eux-mêmes, partager leurs préférences, expérimenter, etc. Dans une société où les violences envers les personnes homosexuelles sont plus que jamais d'actualité, c'est ce qui rend ce genre d'application très importante pour elles. Si les utilisateurs perdent cette confiance, on fait face à un véritable retour en arrière. Je vous avais parlé la semaine dernière des femmes qui se faisaient traquer lorsqu'elles voulaient se faire avorter dans des états où c'est interdit. Et c'était déjà à cause du détournement des données personnelles. Et là, ça recommence, cette fois-ci, pour les gays. Je rappelle qu'on parle de situations qui se passent aux États-Unis, que l'on est en 2023 et qu'il y a donc des minorités qui se font traquer et qui aujourd'hui craignent pour leur sécurité.
Merci beaucoup Manon Mariani pour votre veille sanitaire et j'en tire immédiatement les conséquences en me retirant d'OkCupid. Dommage, mon profil Dirty Saruman y rencontrait un certain succès. À ma gauche, Quentin commence à transpirer et à s'agiter, signe que Rosa Burstein va bientôt nous rejoindre. Juste avant, on se détend avec Goodbye
Sérieux.
World. Yann Verstraten sur Inter.
Take my hands, take these stones, I don't care, in my home. Take my clothes, my fancy shoes, I don't need it anymore. 'Cause I wanna fly so high, be naked in the sky. Disappear with you. Big bow, all these big bow, talking, always talking. I don't care about your job, I don't wanna change wealth, I just wanna be a little bird. 'Cause I wanna fly so high.
be naked in the sky and disappear with you. Disappear with you.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
20 mars 2023, comme pour le PSG, il est temps pour Zoom Zoom Zen de faire tourner l'effectif. Nous aussi, on a plein de comiques en stock qui ne demandent qu'à jouer en Ligue 1. Benjamin Tranier étant à l'infirmerie pour entorse au foie. C'est avec une excitation non feinte, quoique légèrement inférieure à celle de Quentin, que je vous présente Rosa Burstein. Bonjour Rosa.
Bonjour, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui dans l'émission pour tous ceux qui ont un poil dans la main et un cheveu sur la langue, Zoom Zoom Zen. Parce que oui, les auditeurs de France Inter à 16h sont principaux. Principalement des graphistes avec un défaut d'élocution. Quand Cyril, le ténébreux rédac-chef, m'a demandé d'écrire sur la réinformation, j'étais loin de me douter que le sujet me touchait d'aussi près. Qu'avant même que je m'intéresse à la réinformation, elle, s'était déjà intéressée à moi. Et en effet, vous savez pas quoi ? J'ai le droit à ma petite page sur le site Égalité et Réconciliation. Oral, voilà, applaudissements, cris des froids. Je sais pas comment réagir à ça. Et bah, en un, être étrangement flatté. Ouais. À 20 ans, j'avais beaucoup d'ambition. Je pensais que percer, c'était obtenir un prix d'interprétation au Festival de Cannes. Aujourd'hui, à 33 ans, c'est être suivi par les bonnes personnes sur Instagram. Moi, il y a deux follow-back hein, qui m'ont fait prendre le melon, celui d'Angèle et celui de Virginie Despentes. Et je me suis dit, non mais c'est bon, je cherche pas plus de reconnaissance que ça, je suis au top. C'était avant de savoir que Soral rêvait de moi le soir. En plus, je trouve ça plutôt beau comme nom Soral. Un mélange de sororité et du prénom Solal. Quel dommage qu'on n'ait pas à faire un féministe fan d'Albert Cohen. Et même si All Press is Good Press, cet article m'a fait trembler, il m'a fait rire jaune. Et vous allez comprendre pourquoi.
Mon Dieu.
Voilà comment il était titré. Rosa Burstein, une étoile jeune est née.
Oh la vache.
Ouais, je vous laisse un petit temps pour digérer. Bon, comme toute mauvaise blague, elle est immédiatement expliquée par son auteur qui se justifie. Le titre, c'est une vanne. On pense tout de suite au tonton beauf qui ponctue ses sorties racistes de « je rigole, hein, ça va, on peut plus rigoler » et qui tente quand même d'expliquer parce que dans le noir, en fait, on peut reconnaître un noir. Voilà. Non, chut Patrick. Revenons à l'article, je cite « Rosa, la nouvelle reine du stand-up selon TMC, télé ma communauté ».
Ah oui.
Encore ce cliché comme quoi les juifs contrôleraient les médias, et c'est faux. Voilà, j'en suis la preuve vivante. Je tiens à rappeler que j'obtiens enfin une petite chronique sur France Inter, après tout le monde. Après Camille, Laura, Alex, Lilia, Tristan, Alexis, Thomas, on m'a pas donné ma chance dans Par Jupiter, dans la bande originale, encore moins dans la matinale. Je me retrouve avec un essai à 16h dans l'émission des bien personnes qui zozotent. Je suis deg. Pour finir de résumer l'article, il est assez documenté. Oui, mon prénom, c'est pour Rosa Luxembourg, mon père était bien trotskiste, j'ai un psy. En fait, on sent que ce pauvre journaliste se force à ne pas m'aimer sans y arriver. Il écrit « Rosa rit en permanence, ce qui nous entraîne fatidiquement à rire ». Bah, c'est trop mignon. Puis il me compare à Dieudo, qui n'aurait pas besoin, lui, de mon subterfuge. Dieudonné, lui, sur Rennes, ne rit pas souvent. En fait, c'est sympa de me comparer à un gros vendeur de billets, ça me donne confiance. Par curiosité, je suis allée lire les commentaires sous l'article. Vae Victis écrit « L'humour féminin, c'est comme le foot féminin, gros cul poussif et ça rate son but ». J'ai pas compris, en fait, j'y connais rien au sport. Mais je sens l'amour derrière la haine dans cet autre commentaire. Une femme vulgaire, c'est laid, même si c'est la plus belle femme du monde. Merci, voilà. La dernière fois que j'étais au lit avec un jeune homme, il m'a dit « T'es belle, Rosa », et j'ai mal réagi. J'ai répondu en le piégeant « Ah ouais, ah bon, je suis plus belle le matin ou le soir ?» Voilà. Au lieu de prendre le compliment. Je ne veux pas refaire la même erreur. Merci, merci d'écrire que je suis la plus belle femme du monde. Merci à tous les antisémites de croire en ma carrière, en mon succès. Hey, hey, ah, 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 j'utilise mon rire subterfuge. Et j'espère qu'il vous donnera envie de rire aussi.
Ça marche. Merci pour cette première, Rosa Burstein. On vous dit à bientôt dans Zoom Zoom Zen. Qui sait, je crois que Quentin aimerait beaucoup que vous reveniez faire un deuxième essai. Merci Paul Conge de nous avoir expliqué la réinformation. Vous avez lu le nouveau livre de Zemmour quand même?
Pas encore, mais il est sur ma pile.
Il est sur votre pile, il est dédicacé, j'espère. Merci Paul Conge. Je rappelle que vous êtes journaliste à Marianne. Merci à tous. Manon Mariani, Quentin Lui, la voix de Fox News, Cyril Lacarrière en régie. On salue Étienne Bertin à la réalisation et David Diboué-Black à la technique. Tout de suite, on retrouve l'excellente Charline Van Hennecker.